Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Vincent Souriot. Guillaume Meunier.
Bonjour à tous, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Comment relancer la machine? C'est le casse-tête qui s'offre aux dirigeants européens à Bratislava dans moins d'une semaine. L'Europe blessée, l'Europe rejetée, l'Europe en danger, endiguer la montée du populisme, encadrer la crise migratoire, ressouder le couple franco-allemand, est-ce possible? Les 27 sont-ils capables d'un acte fort, d'un autre discours pour réenchanter le rêve européen? Ou bien, pour cause d'échéances électorales, de divergences d'opinion, le sommet de Bratislava va-t-il accoucher d'une souris? De bonnes intentions sans lendemain? C'est notre débat aujourd'hui. Quatre invités dans Carrefour cette semaine. Le premier est luxembourgeois, député européen PPE. Bonjour Frank Engel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex de Bruxelles. Et merci au Parlement européen qui vous accueille dans ses studios. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Karim Adeli.
Bonjour.
Eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Et Carole Ulmer est également avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Économiste, directrice des études de l'Institut Confrontation Europe. Je précise que vous vous êtes présenté il y a 2 ans aux élections européennes et c'était sur une liste centriste UDI Modem. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Sommet donc informel la semaine prochaine à Bratislava, à 27, puisque le Royaume-Uni ne sera pas représenté. La chef du gouvernement britannique, Theresa May, ne sera pas là. Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'il aurait fallu l'inviter, Theresa May?
Non, parce que pour l'instant, il s'agit d'une réunion politique, de nature politique. On espère que ce ne soit pas des commentaires supplémentaires. On n'a plus besoin de commentateurs, on a besoin d'acteurs maintenant, à la tête des États membres de l'Union européenne, qui détiennent la clé de cette relance, de cette réanimation, de cette refondation dont vous parlez. On a besoin qu'ils posent des actes sur la table pour répondre à des sujets concrets qui préoccupent tous les citoyens européens. Et en l'absence de réponse, on voit monter des populismes, ressurgir des nationalismes et bien sûr s'exprimer des extrémismes. Et donc, plutôt que de commentaires sur l'Europe est menacée de dislocation, ce qu'on entend à longueur de journée et qui m'exaspère, on a besoin que les gens aux affaires posent des actes concrets. Et je crois que c'est ça qui permettra de retrouver l'intérêt des citoyens. Il ne s'agit pas de réenchanter le rêve. L'Europe n'est pas un rêve, elle est une réalité. Elle existe, elle a réussi au-delà de tout ce qu'on espérait. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a remis tous les pays européens dans la course alors qu'ils auraient dû sortir de l'histoire. Mais maintenant, il y a d'autres sujets, d'autres problèmes, de la protection de l'environnement à notre sécurité en passant par la crise migratoire. On a besoin de réponses concrètes et je crois que c'est ça qu'on attend des chefs d'État et de gouvernement. Comment vous dire? Je suis un peu sceptique sur l'issue de ce sommet.
Vous n'êtes pas le seul. Karim Adeli, ça a été un choc pour tout le monde, ce Brexit au mois de juin. Maintenant, est-ce que l'Europe ira mieux sans les Britanniques? Est-ce que paradoxalement, c'est pas une bonne nouvelle?
Ça pointe surtout le fait qu'à un moment, soit on a le courage de dire il faut faire avancer l'Europe et se dire si on avance sur l'Europe, ça veut dire qu'il y en a qui voudront pas et il y en a qui voudront. Donc, est-ce qu'on peut essayer de le faire avec ceux qui veulent? Ça veut dire une Europe à double vitesse. Ceux qui veulent, on doit se mettre d'accord aujourd'hui sur des harmonisations. Lorsqu'on parle de la question fiscale, lorsqu'on parle de la question sociale, lorsqu'on parle de la question environnementale, vous l'avez dit, ou de l'accueil des réfugiés. À un moment, cette question-là, elle se pose, première chose. La deuxième chose sur le Brexit, c'est véritablement aujourd'hui un étendard, ce référendum. Notamment, vous l'avez dit, pour tous les populistes qui vont s'en servir dans les différentes campagnes pour dire, vous avez vu, les Anglais peuvent sortir, donc nous, on peut sortir. Et donc, moi, je dis que le sommet de Bratislava, moi, je suis très pessimiste. Parce que je pense que les sommets se succèdent, mais les réponses ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que les chefs d'État ne comprennent toujours pas que nous avons besoin d'une équipe européenne qui se serre les coudes. Et aujourd'hui, on n'a pas une équipe européenne, on a des égoïsmes nationaux qui répondent avant tout à leur politique intérieure. Et je pense qu'on ne se pose pas la vraie question sur l'Europe. C'est quel bilan faisons-nous de l'Europe? Alors vous avez dit, et je suis d'accord avec vous, parce que moi je suis la génération Erasmus.
Moi aussi.
C'est vrai qu'on a peur. On a peur que l'Europe puisse mourir demain. On a vraiment peur. Mais face à ça, il faut aussi dire que l'Europe, l'idée de la paix, etc., certes, c'est vrai, mais en même temps, l'Europe, elle souffre d'un décalage entre l'époque à laquelle elle a été créée, par des hommes qui avaient une culture politique des années 1950. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Le 21e siècle, c'est à nous de la bâtir. Et donc, on a les pères fondateurs. Et donc, il faut que ma génération aussi dise, il ne faut plus qu'on soit spectateur. Il faut qu'on soit des acteurs et des actrices de cette nouvelle Europe. Et pour ça, il faut se poser la question que se pose aucun chef d'État. Pourquoi les gens n'aiment plus l'Europe ?
On va en reparler.
Voilà.
Frank Engel, il y a une phrase qui revient sans cesse depuis ce fameux Brexit. Moins d'Europe ou plus d'Europe, ce n'est pas la question. L'essentiel, c'est de fabriquer une Europe meilleure. Jean-Claude Juncker l'a dit, Matteo Renzi l'a dit, Angela Merkel aussi, pratiquement dans les mêmes termes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous une meilleure Europe et comment ça peut se concrétiser à Bratislava ?
Mais ça ne va pas se concrétiser à Bratislava, parce que ça ne va jamais se concrétiser dans le cadre d'un Conseil européen. Le Conseil européen est une manifestation dans laquelle des gens qui, à temps plein et de jour, sont censés gouverner leur pays avec succès, soit dit entre parenthèses, ce succès fait aujourd'hui défaut dans la quasi-totalité des États membres, prétendent gouverner à mi-temps et de nuit un continent. Et ça ne peut pas marcher. Le Conseil européen est le plus grand leurre qui a jamais été inscrit dans un traité européen. Ce n'est pas un hasard qu'en 1953, alors que les pères fondateurs étaient encore à l'œuvre, on avait conçu un projet de traité sur la communauté politique européenne qui ne faisait état d'aucun Conseil européen. Les pères fondateurs savaient bien pourquoi. Et ce n'est pas de là que va venir une impulsion européenne qui est antithétique par rapport aux préoccupations des gens qui se rencontrent là. On sera toujours prisonnier d'une quelconque élection quelque part. Que ce soit une présidentielle en France, que ce soit une régionale en Allemagne, que ce soit une parlementaire en Slovaquie, tout cela empêchera tous ceux qui font partie du Conseil européen de poser l'intérêt de l'Europe comme jalon de leur action.
Il peut quand même y avoir une réponse politique à un événement majeur qu'a été le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. On peut se dire que les dirigeants européens vont dire quelque chose, au moins symboliquement.
Mais non, ils ne vont pas le faire, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas à l'ordre du jour. Étrangement d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre spécifiquement à 27 pour donner acte au fait que le Royaume-Uni a choisi ce qu'il a choisi. Et deuxièmement, que voulez-vous qu'il fasse avant que le Royaume-Uni ne fasse quoi que ce soit ? On se bloque dans une attitude qui consiste à dire « on ne va pas faire de proposition ». Juncker a dit « j'interdis à mes commissaires non seulement de négocier, mais de parler avec qui que ce soit de Britannique sur ce qu'on pourra faire jusqu'à ce que le Royaume-Uni ait pris ses dispositions, à savoir à invoquer l'article 50 pour la sortie de l'Union. Ce ne sera pas pour demain. Tant que ce ne sera pas fait, et ça peut encore durer des mois, il n'y aura aucune réaction. Ça témoigne de nouveau de la lamentable faiblesse de ce Conseil européen.
Carole Ulmer, un constat assez clair du côté de Frank Engel. Pour vous, la priorité des priorités ?
Question difficile, mais je rejoins le sentiment des autres interlocuteurs ce matin. On est assez sceptique sur l'issue de ce Conseil de Bratislava. Effectivement, on attend des réalisations concrètes de la part des chefs d'État et de gouvernement réunis. La sécurité, bien sûr, priorité des priorités, défendre nos frontières extérieures, lutte contre le terrorisme, bien sûr, doit être au menu de ce Conseil. La question du changement de mode de développement, du mode de croissance, doit être évidemment au cœur des préoccupations. Nous avons un plan Juncker, plan d'investissement. Sera-t-il question de le réorienter, de définir des priorités politiques pour ce plan Juncker ? Aujourd'hui, je rappelle qu'il n'y a pas de priorité politique d'investissement définie collectivement au niveau européen, ce qui est quand même une aberration, alors qu'on sait très bien que nous avons des besoins en matière de transition énergétique, de transformation numérique, mais surtout de formation dans le capital humain. Ce sont des ambitions européennes, mais qui ne se traduisent pas concrètement dans la réalité des priorités d'investissement. Donc, réalisation concrète que nous attendons tracée à Bratislava, même si, encore une fois, je le rappelle, je suis très sceptique. Mais je ne voudrais pas que nous omettions quand même un sujet majeur. Le Brexit a quand même été un électrochoc. Fondamentalement, le sous-jacent de cette crise, c'est une crise identitaire entre les peuples européens. On passe toujours par pertes et de profits cette question des valeurs européennes parce que on estime que c'est un sujet philosophique, que c'est pas assez concret, que ça n'avance pas assez vite. Mais fondamentalement, ce qui nous a sauté à la figure, au visage, lors de ce référendum, c'est bien cette remise en question des valeurs communes. Même chose dans les élections en Allemagne, dans la région du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Là aussi, on voit bien qu'il y a des questionnements de valeurs qui se posent. Il ne faut pas passer par pertes et profits cette question centrale. Sinon, nous allons continuer dans une Europe à marche forcée et ce n'est pas ce que nous voulons.
On s'arrête justement en Allemagne avec la rédaction de Courrier International à propos de ce scrutin régional que vous évoquez et qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Vincent.
C'était dans le nord du pays, élection locale mais retentissement national, voire international. Les résultats, Daniel, sont catastrophiques pour la CDU, le parti d'Angela Merkel.
Oui, en effet, on peut parler d'une claque. La CDU a chuté de 23 à 19% aux élections du 4 septembre au Mecklenburg. Mais le phénomène touche aussi les autres partis. Le SPD et le parti de gauche ont perdu 5%. Les Verts sont éliminés du Parlement. C'est donc un mouvement général qui bénéficie aux populistes de droite de Alternative pour l'Allemagne, AfD, on dit en allemand, qui engrange d'un coup 20,8%, un score considérable. Alors c'est sûr, l'AfD sort grand vainqueur, la CDU grand perdant, mais il ne faut pas oublier que le SPD arrive quand même en tête avec 30% des suffrages et qu'il peut encore s'allier à la CDU pour gouverner le Land. Néanmoins, ce scrutin avait valeur de test national, en particulier pour Angela Merkel, et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est elle qui est la présidente du parti, de la CDU. C'est sa circonscription électorale depuis l'unification allemande, depuis 90. La campagne s'est focalisée sur sa politique migratoire, qui domine la vie politique allemande depuis un an. Et enfin, parce que l'Allemagne est déjà entrée en campagne pour les élections législatives de 2017. Donc, dans ce contexte, le fait que la CDU n'arrive qu'en troisième position est véritablement un mauvais présage pour elle.
Un constat à l'issue de ce scrutin, Daniel, c'est que l'extrême droite s'installe dans le paysage politique en Allemagne.
Oui, c'est vrai, l'AfD s'installe lentement mais sûrement dans les parlements régionaux. Elle arrive maintenant à siéger dans 9 Länder sur 16, à l'est comme à l'ouest. Donc c'est un phénomène nouveau. Les chrétiens démocrates, la CDU et CSU, et les deux partis sont débordés sur leur droite, ce qui leur était jamais arrivé. L'AfD est un parti jeune, fondé il y a 3 ans. C'est un mélange d'ethno-régionalisme, de droite radicale et de populisme, comme le résume un éditorialiste de la Süddeutsche Zeitung. C'est un parti qui avait tendance à se déchirer et à s'étioler jusqu'à ce que Merkel décide d'ouvrir les frontières aux réfugiés le 4 septembre dernier, précisément. L'AfD a trouvé une nouvelle vie avec l'arrivée d'un million de réfugiés en 2015. Cela lui a permis de relancer ses thèmes favoris de défense de la nation allemande et de l'Occident. Mais en même temps, il faut préciser, c'est un mouvement complexe qui n'attire pas seulement les déshérités. C'est un mouvement qui compte beaucoup de représentants des couches moyennes, voire aisées, qui vivent dans la crainte du déclin et de la dénaturation de la nation allemande. C'est pourquoi il est et il restera très difficile de le désamorcer, hormis peut-être, comme le suggèrent certains analystes, en l'attaquant sur le front raciste qu'il incarne et en lui opposant un refus catégorique.
Daniel Renon de Courrier International. Daniel, merci. Sélection d'articles sur ce thème à retrouver cette semaine dans Courrier et sur courrierinternational.com. Frank Engel, la CDU, le parti d'Angela Merkel, on l'a dit, donc battu par l'extrême droite qui progresse un peu partout en Allemagne. Est-ce que cela peut, selon vous, avoir une influence sur la politique européenne d'Angela Merkel?
Je ne le pense pas parce que Mme Merkel est l'une des rares figures dirigeantes nationales en Europe qui a assez de caractère et assez de format pour ne pas se laisser perturber par ces mouvements de fortune, car voyons cela quand même en perspective. J'entends parler de dérives droitières, de je ne sais pas quoi. La participation dans ce Land dimanche dernier était de 60%. Il y a un parti nouveau qui décroche donc 20% de 60%, ça en fait 12. Ça veut dire que 88% n'ont pas voté pour ce pays, pour ce parti ou n'ont pas voté du tout. Je veux dire, il n'y a pas une majorité en Europe actuelle ou future qui serait soudain devenu ou redevenu fasciste, extrême-droitiste ou je ne sais pas quoi. Le problème est que la politique établie dans trop d'endroits sur ce continent ne fournit plus de succès, ne fournit plus d'orientation, ne fournit plus de réponses et que les gens se disent à un moment donné, on va voir ailleurs. Sauf que si ça dure trop longtemps, cet ailleurs peut acquérir une dimension qui serait inquiétante et qui pourrait très bien également mener à la paralysie totale de l'intégration européenne parce que s'il y a une chose que tous ces gens ne veulent pas, alors, c'est l'Europe parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment une démocratie pourrait s'articuler au-delà de la nation, en imbriquant plusieurs nations, en englobant un continent dans une volonté de signification globale commune. Et c'est précisément cette volonté qu'il s'agira de réarticuler dans les partis traditionnels, celle de vouloir encore compter dans le monde, orienter, fournir des réponses et également avoir des succès de nouveau. On ne peut pas éternellement croire qu'on pourra se maintenir au pouvoir en omettant les succès à la maison. Et si jamais en Europe il y en a un, on se l'attribue soi-même tout en sachant que les électeurs ne le croiront pas.
Jean-Dominique Giuliani, plutôt repli national ou plutôt peur de cette crise migratoire qui a précipité 1 million de réfugiés en Allemagne ?
Les deux, tant le Brexit que le scrutin régional en Poméranie montrent qu'aucun État membre n'est épargné par un mouvement qui relève des deux, en réalité. Une angoisse générale à l'égard d'un environnement mondial qui a complètement évolué, des défis nouveaux, la crise migratoire, mais ce n'est pas qu'européen. C'est un phénomène mondial. Et donc, il faut le prendre à la hauteur des enjeux. Et c'est vrai que dans la plupart des États membres, l'électeur a le sentiment que ses dirigeants ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et que donc, il ne les tire pas vers le haut avec une vision, quitte à être critiqué, mais qu'on propose sur la table une vision. Voilà ce qu'on veut. On veut une Europe qui soit une puissance, par exemple. On veut une Europe qui sera généreuse, qui respecte ses valeurs. On veut un mode de vie européen qui est quand même basé sur le droit et qui est assez exemplaire dans le monde entier. Alors c'est peut-être ça qu'il faut redéfinir, revivifier, réanimer, moderniser, vraisemblablement, parce qu'on a changé de génération et on a surtout changé de contexte mondial.
Karim Adeli, je vous vois opiner du chef.
Ouais, par rapport à la montée des extrêmes et qui surfent vraiment sur des fantasmes, sur des peurs. Et c'est là où j'en veux beaucoup à tous ceux qui sont pro-européens.
Et vous l'êtes pas, vous ?
Si, moi je suis pro-européenne, mais on ne nous entend pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut partir du constat. Le constat, je l'ai un petit peu évoqué. Pourquoi il y a ces peurs ? Pourquoi il y a ces fantasmes ? Parce que l'Europe n'a pas répondu à certains défis. C'est-à-dire la question du dumping social, qui aujourd'hui, chez les salariés, fait très peur. La question, aujourd'hui, beaucoup de gens voient l'Union européenne comme le cheval de Troie de la mondialisation financière. On attendait de l'Europe une taxe des transactions financières. Lorsqu'on a M. Barroso qui devient aujourd'hui salarié de la banque Goldman Sachs, celle-là même qui a aidé justement la Grèce à maquiller sa dette. Et ensuite, on l'a dit tout à l'heure, mon collègue du Parlement européen l'a dit, et le Conseil européen où tout est fermé, c'est à huis clos, etc. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans toutes ces instances, que ce soit l'Eurogroupe, etc. Donc les gens se disent, mais la démocratie, elle existe où ? Ce qu'il faut matraquer aux citoyens européens, c'est que face aux défis qui s'imposent à nous, on ne peut pas le faire seul. C'est l'Europe qui peut être une puissance. Et là, j'en veux beaucoup aux chefs d'État, parce qu'ils se rassemblent à Bratislava. Mais regardez ce qu'on a eu sur la COP21. La Chine et les États-Unis, main dans la main, disent « Oui, nous ratifions l'accord de Paris ». L'Europe, nos 28 États, maintenant 27, n'ont même pas été capables aujourd'hui de ratifier cet accord parce qu'on a justement des égoïsmes nationaux, notamment la Pologne qui dit « Ah non, moi je ratifie pas parce que j'ai avant tout besoin de concessions sur le charbon ». Et c'est là où il faut redire que l'Europe, elle peut avancer si on arrive à montrer aux gens que sans l'Europe, c'est pas possible. Moi, je vois rien que sur la question de la mondialisation financière. Si l'Europe donnait un symbole très fort sur l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'on attend sur les paradis fiscaux ? On est capable de le faire. Qu'est-ce qu'on attend sur le terrorisme ? Vous avez parlé du terrorisme. C'est une illusion de faire croire que l'Allemagne tout seul, la France tout seul, réglera cette question-là. Donc, moi, je dis, et j'aime beaucoup...
Monsieur Giuliani,
vous avez dit une chose très concrète, vous avez dit un mot que moi j'aime bien, c'est nous sommes dans une paralysie, les États membres sont paralysés. Donc face à des États paralysés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut relancer l'Europe, mais avec des solutions concrètes. Et on en reparlera tout à l'heure.
Et la politique dans nos États aussi.
Carrefour de l'Europe, comment relancer la dynamique européenne dans la perspective du sommet de Bratislava ? C'est le débat cette semaine, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos.
Priorité santé.
Claire.
Cruzeme en toute Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Vincent Souriau, Guillaume Meunier.
Carrefour de l'Europe, la suite, toujours avec nos invités, deux députés européens, Karim Adeli, au groupe des Verts, et Frank Engel, du Parti Populaire Européen. Avec nous également Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, et Carole Ulmer de Confrontation Europe. Le sommet de Bratislava, dans moins d'une semaine, les dirigeants européens au chevet d'une Europe qui doute, qui se cherche. Quelle solution politique? Quelle relance de l'esprit européen? J'aimerais votre avis à tous les quatre sur cette proposition de François Hollande, le président français, proposition lancée il y a 10 jours, en vue du sommet de Bratislava.
Il y a eu le plan Juncker et je veux saluer ce qu'a été l'initiative du président de la Commission. Je propose aujourd'hui de doubler le plan Juncker en le prolongeant pour la recherche, pour la formation, pour les infrastructures numériques et énergétiques.
Carole Ulmer, est-ce que c'est une bonne idée de doubler le plan Juncker? Vous en parliez tout à l'heure, vous disiez il est mal défini, est-ce qu'il faut le doubler?
On prend toujours plus d'argent quand on nous en donne, donc volontiers. Mais maintenant, il faut définir des priorités politiques pour ce plan Juncker. Aujourd'hui, le système fonctionne. Le premier qui arrive avec son projet prend l'enveloppe. Bon, très bien. Donc, les grands pays viennent les premiers et arrivent à prendre les principales enveloppes, ce qui fait que nous finançons des autoroutes en Allemagne. Est-ce que c'est une priorité pour les Européens de construire des autoroutes en Allemagne? Je pense que il y a d'autres ambitions que nous pourrions partager, comme investir dans le capital humain, soutenir la jeunesse, encourager des innovations et des coopérations industrielles, développer des programmes sur la transition numérique et énergétique. Autant de priorités qui parlent, je pense, à un très grand nombre de citoyens, autant de priorités qui sont indispensables dans le 21e siècle, si nous ne voulons pas rater les transitions auxquelles nous faisons face. Mais pourtant, voilà, il n'y a pas de lien qui sont établis entre la stratégie politique européenne en termes de politique industrielle, de compétitivité, de formation, de capital humain, et ce plan Juncker qui a le défaut d'être finalement un plan et pas un programme, un véritable programme avec des orientations politiques. Donc moi, je souhaite vraiment qu'il y ait aussi cette réflexion sur la gouvernance de ce plan Juncker.
Karim Adeli, est-ce qu'il faut mettre plus d'argent sur la table? Est-ce que ça fait partie de la solution?
Ben, on aimerait y croire, quoi. Tout le monde a dit que c'était un plan d'investissement, mais il y a seulement 21 milliards d'euros à l'intérieur. Hein. On nous a présenté ça en disant « Oh là là, ça va être 300 milliards !» Alors que non, ce n'est pas 300 milliards d'euros, c'est 21 milliards. Donc si on double, ça fait 42 milliards. Et après, on nous dit qu'il faut faire des orientations et des priorités. Ça, c'est l'urgence, quand moi je vois, et je vais vous donner deux exemples. Moi, je vois que l'urgence, notamment des choix français, c'est que chaque État arrive avec sa petite liste de courses. Donc la France, par exemple, elle préfère investir sur le Lyon-Turin qui va nous coûter 26 milliards d'euros. Donc vous voyez, 26 milliards dans l'enveloppe de Juncker, c'est 42. Donc on va déjà en prendre la moitié. Donc il y a des choses d'incohérence.
Non, mais on pourrait se dire que c'est logique, c'est-à-dire tout le monde participe et ensuite on redistribue.
Oui, mais voilà, on redistribue, mais le premier qui dépose les dossiers, le premier servi, il n'y a pas de cohérence sur quel projet européen. C'est pas des projets européens, hein, ce qu'on a là. C'est chacun arrive avec ses petits projets. Premier problème. Deuxième problème, c'est qu'on pose pas les vraies questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas un projet d'avenir dans le plan Juncker. Projet d'avenir, c'est par exemple de dire, écoutez, là, on a vraiment un vrai gros problème, notamment sur la en termes des questions de chômage, notamment de la jeunesse. Si on veut faire vibrer le cœur de la jeunesse sur l'Europe. Parce que moi, je me souviens qu'on s'est battu pour sauver le budget d'Erasmus. Hein, souvenez-vous. Mais moi, je serai présidente de la Commission européenne. La première chose que je fais, c'est je lance un service civique européen pour toute cette jeunesse en disant « Allez voir l'Europe ». Parce que le problème aussi, c'est que cette jeunesse, comme elle n'a pas énormément d'argent, parce qu'on parle de génération sacrifiée et génération précaire, sa priorité, c'est pas d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc moi, j'aurais aimé que Monsieur Juncker dise, moi, mon plan, la première chose, c'est l'avenir. Une société qui investit dans la jeunesse et qui pense son avenir. Donc par exemple, de dire, on va faire en sorte que 1 million de jeunes, chaque année, aillent voir un autre pays européen. Ça, c'est l'avenir. Sur la question des investissements réels, moi, je vois sur les infrastructures. On sait très bien qu'il y a le réchauffement climatique. Les trois quarts du plan Juncker, c'est sur du routier, des autoroutes, etc. Mais qu'est-ce qu'on attend d'investir sur notamment le ferroviaire? Qu'est-ce qu'on attend? Le train, c'est super, quoi, je veux dire. En plus, ça crée de l'emploi, c'est direct et c'est bon pour le climat. Sur la question numérique, et je termine par là, ça va être le grand bouleversement, l'automatisation et la robotisation. Nous, toutes les études de la Commission européenne nous le disent, ça va détruire 50% des emplois. Donc il faut aussi voir ce qu'on fait par rapport à cette révolution numérique, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas retrouver du boulot. Et donc moi, je suis pour qu'on instaure à l'Union européenne, notamment un vrai filet de protection sociale européen avec un revenu de base européen.
Frank Engel, je vous pose la question naïvement. On a beaucoup parlé d'austérité ces dernières années. Il y aurait une politique européenne moins stricte en matière budgétaire actuellement. Qu'est-ce que ça changerait?
C'est un faux débat, je pense, entre les tenants de la rigueur budgétaire de l'un côté et de l'autre côté de ceux qui diraient « mais non, il faut investir, faut que l'argent circule ». Nous constatons qu'aujourd'hui, l'argent circule, a priori, devrait circuler a priori. On a une production monétaire, pour ainsi dire, en Europe comme on n'en a jamais vu. En même temps, on a fait en sorte, après la crise financière, que les banques soient contraintes par des règles de garantie qui les empêchent actuellement de continuer l'argent dont ils peuvent disposer à ceux qui pourraient en avoir besoin pour effectuer les investissements productifs nécessaires, donc copie à revoir. Mais pour le reste, je suis assez d'accord avec Karim Adeli. Premièrement, ce plan d'investissement qu'on a eu, pourquoi on l'a eu? Eh bien parce que l'Europe ne dispose pas de budget. L'Europe ne peut pas investir. Nous, c'est 1% du PIB. Hein. Ça veut dire que 99% du PIB est géré par les États membres. Le budget dont dispose l'Union européenne dans sa totalité par an équivaut à peu près un sixième de celui du Royaume-Uni seul. Hein, juste pour que les gens aient une idée de ce dont ils se plaignent toujours en termes de l'Europe gaspille des fonds et les États n'ont plus les moyens. Les États ont les moyens. Les États auraient les moyens s'ils investissaient dans les bonnes choses. Et je suis d'accord aussi pour dire qu'on a partout les mauvaises priorités. Nous nous noyons sur ce continent dans du trafic autoroutier de camions pour transporter du fret, alors que des gens qui ont besoin de recourir à des services de fret me disent « c'est impossible de recourir au ferroviaire parce que ça nous fait des trajets de 7-8 jours avec paparasserie impossible, alors qu'en camion, on le fait en un jour et demi. » Donc bien évidemment qu'il faudrait investir dans le ferroviaire transfrontalier, mais on vit au 21e siècle ou quoi? Si je regarde tous les fonds qui sont gaspillés, mais vraiment gaspillés, dans chaque État membre, sans exception, pour des projets de prestige en termes d'éducation, de recherche, de je ne sais pas quoi encore, avec tous les doublons qu'on a dans ce domaine, si je regarde que nous avons, en termes de sécurité extérieure, nous avons en Europe 3 millions d'hommes et de femmes sous armes, dans 28 armées nationales différentes, avec une cinquantaine de corps mixtes, auxquels participent entre 2 et je ne sais pas combien de nations, qui se comprennent difficilement, mais on n'a pas de marché de l'armement, on n'a pas d'agence d'armement, on n'a absolument aucune interopérabilité signifiante, et on ne s'est toujours pas rendu à l'évidence qu'une armée européenne, à la fin du compte, ça nous épargnerait énormément d'argent, et cela nous permettrait finalement peut-être de commencer à résoudre nos propres problèmes de sécurité, ce qui est la grande attente des citoyens dans tellement de pays européens, dans la quasi-totalité.
Frank Engel,
ça serait politiquement les priorités, on ne les a pas.
Je donne la parole à Jean-Dominique Giuliani qui fait la moue en vous entendant, Frank Engel.
Oui, bien sûr, moi je suis d'accord sur la perspective d'une armée européenne, mais il faut être concret. Elle obéit à qui? Moi, mon fils est militaire. Il obéit à qui? À Jean-Claude Juncker pour aller se faire tuer au Mali? Alors vous comprenez, il y a un problème démocratique pour l'Europe. Donc c'est pas si simple. Donc bien sûr que c'est une perspective intéressante. Mais commençons à montrer l'exemple dans nos États membres. Dépensons de l'argent au lieu de dire qu'on est en paix. Faisons l'armée du 21e siècle. Après, on pourra, et il appartient aux hommes politiques, y compris au Parlement européen, à construire cette démocratie qui permet de contrôler l'armée, de l'engager, etc. On n'est même pas d'accord pour savoir si la menace c'est la Russie, si c'est la Libye, la Syrie ou la stabilisation de l'Afrique. Robert Schuman avait écrit dès 1960 que l'Afrique, c'était le grand défi de l'Europe. Bon, et il avait raison. C'est là, aujourd'hui, 700 millions d'habitants, 2050, 2 milliards d'habitants, voisines de l'Europe, on peut penser que les Africains vont vouloir venir en Europe. Donc, déstabilisation de l'Afrique, nécessité d'avoir une véritable armée, d'avoir des armées qui s'engagent, qui se battent. Aujourd'hui, il n'y a que l'armée française qui est l'armée européenne. Personne d'autre veut y aller. Alors je sais que les Luxembourgeois font des efforts, même malgré la taille de leur armée. Je sais, ils le font. Donc ce n'est pas une attaque personnelle du tout. Mais disons, le groupe de Visegrad qui vient de se réunir pour dire on veut une armée européenne, ils sont d'accord sur rien. Si on écoute les Polonais, il faut faire la guerre à la Russie. Donc ce n'est pas si simple que ça. N'est-ce pas ? Donc, deuxièmement, commençons par montrer l'exemple. Et faisons des coopérations. Les militaires coopèrent mieux que les politiques sur le terrain.
Frank Engel vous répond, Jean-Dominique Giuliani.
Non, mais je ne perçois pas vraiment de contradiction entre nous. Je dirais, M. Giuliani, votre fils, s'il était allemand ou luxembourgeois, participait à la mission au Mali comme nos deux pays le font, combattrait très vraisemblablement sous le commandement d'un officier français.
Oui, mais la mission au Mali de l'Union européenne, elle n'a pas le droit de se battre. Et non, face au terrorisme, elle a seulement le droit d'apporter des soins et pas dans les zones de combat.
Je le sais, mais c'est comme ça que nous l'avons conçu.
Eh ben, c'est une erreur.
C'est peut-être une erreur, peut-être que nous ferons mieux la prochaine fois. Moi, je suis d'avis que si l'Eurocorps peut exister et d'autres, il ne doit pas y avoir un problème de principe pour qu'un soldat luxembourgeois ou belge accepte de servir sous un officier commandant français. Et vice-versa. Pourvu qu'il y ait une logique militaire qui convainque les uns de la légitimité des autres. Et dès lors, c'est vrai aussi ce que vous dites quand vous dites qu'au fond, l'armée européenne, aujourd'hui, c'est l'armée française. C'est lamentable. C'est l'un des mérites qu'a la France en termes d'engagement européen actuellement. C'est l'un des démérites qu'ont presque tous les autres qui excellent surtout à esquiver les responsabilités. Ce qui fait que nous en arrivons à cet autre problème que vous venez de soulever. Pour chacun, la menace est différente. La Pologne vous dira actuellement, si c'est pour nous protéger contre les Russes, nous sommes bien disposés à consentir un effort, mais pas en Afrique. Alors qu'un Espagnol vous dira exactement le contraire. Et c'est là où nous devons effectivement faire en sorte que nous trouvions une place pour l'Europe, une place notionnelle, une place conceptuelle.
Carole Ulmer, sur la défense européenne, qui fait également partie des sujets avancés par François Hollande la semaine dernière.
Juste deux choses pour être rapide. C'est une priorité pour les citoyens européens. Rappelons-le, en ces temps d'euroscepticisme patenté, quand on regarde les eurobaromètres, la défense, avoir une défense commune au niveau européen, fait partie du top 3 des priorités pour les citoyens européens dans de très nombreux pays européens. Donc déjà, on se rend compte que... Alors que c'est un sujet de souveraineté par excellence, il y a cette volonté, cette prise de conscience, une nécessité d'agir en commun face à des menaces, à des ennemis qui nous sont communs. Donc ça, c'est quand même un signal auquel les politiques doivent répondre. Puis le deuxième point que je voulais soulever, c'est que oui, la France a évidemment porté le flambeau de cette défense européenne, mais on sent quand même aujourd'hui des signaux positifs. Alors, on est très loin d'une armée européenne, mais on sent malgré tout que ça bouge. En Allemagne, Madame Merkel évolue dans cette direction-là, et d'autres pays membres le font également. Et je pense qu'il ne faut pas céder et vraiment organiser une capacité européenne, civile et militaire, de planification et de conduite des opérations. C'est la première étape qui semble effectivement nécessaire.
Carrefour de l'Europe, le sommet de Bratislava, peut-il changer la donne, relancer la machine européenne ? Un détour par l'Espagne à présent, parce que c'est aussi là que ça se joue. Pour agir au niveau européen, il faut des gouvernements. Or, en Espagne, il n'y en a toujours pas. Bonjour Maria Afonso.
Bonjour Vincent.
Toujours pas de solution malgré deux scrutins législatifs et ça fait 9 mois que ça dure.
Le feuilleton continue avec un air de déjà-vu, une fin sans véritable surprise et pour l'instant toujours pas d'accord entre les partis politiques. Rappel des épisodes précédents. En décembre 2015, il y a des élections législatives, échec des négociations pour désigner le chef du gouvernement. En juin, un deuxième scrutin avec le même scénario et les mêmes protagonistes. Et donc, le même résultat. Le PP, le parti populaire de Mariano Rajoy, est toujours en tête, suivi du parti socialiste de Pablo Sanchez. En troisième position arrive Podemos, la gauche radicale, emmenée par Pablo Iglesias. Et pour finir, les centristes libéraux de Ciudadanos, que dirige Albert Rivera.
Toujours pas de majorité absolue, Maria, parce que la nouvelle donne, c'est la montée des nouveaux partis politiques.
Oui, comme Podemos et Ciudadanos qui ont mis fin au bipartisme entre le PP, le Parti populaire, et les socialistes qui existaient depuis près de 40 ans. Avec ce nouveau paysage politique, aucun compromis jusqu'à présent n'a été possible pour désigner un nouveau chef de gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour les négociations. Si aucun accord ne voit le jour, le Parlement sera dissous le 31 octobre et ce sera reparti pour un troisième scrutin, en principe le jour de Noël.
Blocage institutionnel, Maria, on l'a bien compris, est-ce qu'il a une influence sur la situation économique de l'Espagne ?
Pour l'instant, l'économie espagnole garde le cap. C'est l'une des plus dynamiques de la zone euro avec une croissance de 3,2% l'an dernier. Le chômage a reculé, mais il reste l'un des plus élevés de la zone euro avec un taux de 20% de la population active. Signe de reprise, certes, mais l'économiste Marc Vidal du cabinet d'études SINC lance cet avertissement. L'absence de gouvernement pèse sur l'économie du pays.
Des investisseurs potentiels, des entrepreneurs potentiels ont suspendu leurs décisions. Et donc des situations sont paralysées. Des réductions pour les investissements publics ont déjà commencé. Une réduction de 90% des subventions destinées au lancement de start-up ou à des projets qui ont besoin de subventions, eh bien c'est 90% d'aide en moins. Ce n'est pas un bon signal. Nous avons besoin que les partis politiques se mettent d'accord. Ce n'est pas possible de maintenir un pays dans une telle confusion, parce qu'on a besoin d'un cadre bien clair.
Plusieurs chiffres annoncent d'ores et déjà des répercussions sur le début de la reprise espagnole. Le gouvernement table sur 2,9% de croissance pour 2016, alors qu'elle était de plus de 3% l'an dernier.
Merci Maria Afonso Karima Deli. Gouvernement introuvable donc en Espagne. Il y aura peut-être des élections dans quelques semaines. L'an prochain, il y a des élections cette fois en France, les présidentielles, les élections fédérales en Allemagne. Est-ce qu'on ne court pas au statu quo à Bratislava? Blocage politique pour cause d'élections à venir?
Bah, moi, je pense que oui.
Mais si c'est Bratislava, c'est pareil pour un an. On est parti pour un an de blocage.
Bah, moi, je pense que pendant un an, rien ne va se passer. Tout va être concentré sur les élections présidentielles, donc des élections nationales. La vraie question, c'est comment, à l'intérieur de ce grand débat qu'on appelle les élections présidentielles, par exemple en France, la question européenne va être abordée. Parce que moi, quand j'entends certains candidats dire beaucoup de bêtises, quand j'entends Monsieur Montebourg qui ose me dire...
Il n'est pas là pour se défendre. Hein.
Non, oui, non, mais je lui fais un appel, voilà. Quand il ose dire qu'il faut supprimer la directive des travailleurs détachés contre le dumping social, tout ça, c'est facile. C'est très facile. On va surfer sur l'Europe avec des espèces de populisme, etc. Après, la vraie question, c'est attention, c'est pas parce que vous devenez chef d'État que vous allez faire la loi à l'Europe. Non. L'Europe, c'est aussi des compromis. C'est aussi vous arriver avec 27 autres chefs d'État sur lesquels il faut négocier certaines choses. Moi, j'attends dans ce débat présidentiel, c'est véritablement comment on fait pour réinstaurer la démocratie en Europe. Comment on fait pour relancer une vraie Europe sociale. Comment on fait pour une Europe qui prépare vraiment le vivre ensemble et les générations futures. Comment on fait pour l'Europe qui prépare le monde de demain et qui protège notamment la planète, parce que c'est un enjeu fondamental. Moi, j'attends ces réponses-là. Et je vois qu'aujourd'hui, les campagnes nationales vont tourner autour de sujets. On l'a vu cet été, moi je suis assez atterrée que des politiques s'engouffrent dans le burkini au lieu d'avoir une vision politique globale et avoir des vrais projets. Et donc sur ça, moi je le dis très simplement, on a une opportunité. Tout à l'heure vous parlez du Brexit, je pense qu'il faut... prendre le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne, comme une opportunité et pour dire et si maintenant on relançait véritablement un vrai débat sur la démocratie européenne, comment on relance cette Europe? Et on ne peut plus, et je le dis, et ce sera ma dernière phrase, on ne peut plus voir les problèmes d'aujourd'hui et de demain avec des solutions du passé. Arrêtons de dire on va chercher le plein emploi, arrêtons de dire il faut plus de croissance même à l'Europe. Ah, tout ça, moi, ma génération, on leur a promis tout ça. Ma génération, elle est en face de plein de thématiques et elle ne sait pas. Donc moi, je pense que c'est là. Il faut relancer le débat sur l'Europe, on en a l'occasion, et faire en sorte que demain tout le monde soit ambassadeur de cette nouvelle Europe, pas cette Europe qui est un peu la fervente de l'austérité, etc., mais qu'on relance le rêve européen avec des idées concrètes.
Vous parliez de solutions du passé, Karim Adeli. Jean-Dominique Giuliani, j'aimerais vous poser une question peut-être iconoclaste, mais est-ce que on pourrait se passer de la France et l'Allemagne dans ce débat sur la relance de l'Europe? Est-ce que le couple franco-allemand, finalement, n'est pas dépassé?
Oh, il n'est pas dépassé, il est un peu en sommeil, pour des raisons politiciennes, en réalité.
À savoir
C'était une relation d'État à État, c'est devenu une relation entre partis politiques. Alors évidemment, comme ce ne sont pas les mêmes qui sont aux affaires, c'est plus compliqué. Et depuis le début du quinquennat Hollande, il y a un malentendu là-dessus. Quand je vois qu'on réunit les chefs d'État des pays sociaux-démocrates d'un côté, de droite de l'autre, non, c'est pas ça l'Europe, c'est pas à la hauteur des enjeux. La France et l'Allemagne pèsent sur le continent, ils représentent entre 30 et 40% du PIB du pays de la zone euro, même un peu plus, donc elles ont une responsabilité d'entraîner les autres et de proposer. Et parce que il y a quand même une réalité, quand les grands montrent l'exemple, les autres ont tendance à suivre. On ne le fait pas.
Oui, mais où sont les petits? C'est ça, on pourrait se dire aussi les nouveaux arrivants sont frais, plus enthousiastes, par exemple.
Oui, enfin, j'aimerais que ce soit le cas, n'est-ce pas? Et quand on voit, donc il y a un devoir politique qui n'est pas assumé aujourd'hui, un devoir de leadership qui n'est pas assumé, et franchement. Pour rebondir sur ce que disait Karim Adeli et que je partage sur les élections nationales, je constate quand même que déjà, dans la pré-campagne électorale française, on parle de l'Europe. Bon, c'est déjà un point positif. Enfin, si je puis dire. Deuxièmement, je partage son souhait qu'on en parle en des termes sérieux et qu'on ne dise pas n'importe quoi, parce qu'on entend vraiment beaucoup de bêtises. Et troisièmement, je crois que il faut lier les réponses nationales aux réponses européennes. Et ça, c'est une vraie révolution intellectuelle qui est très difficile, parce que les élections se passent au niveau national, avec des circonscriptions, des électeurs, des clients, disons-le. Hein, il faut imaginer quels sont les grands intérêts communs de l'Europe pour les 50 ans qui viennent, en fait, c'est ça. Est-ce que l'avenir de la planète passe pas par la protection des océans? Moi, je suis persuadé, par exemple, comme un marin que je suis, qu'on a gâché un peu la Terre et que maintenant, les deux tiers de la planète, c'est de la mer. Donc, on a devant nous une opportunité extraordinaire et l'Europe a un rôle considérable à jouer là-dedans parce qu'elle est riveraine du monde entier, en fait, par son commerce, par la France, par ses territoires, etc. Bon, donc, vous voyez, des sujets, définir des intérêts communs qui s'élèvent au-dessus des simples intérêts clientélistes. Je suis pas idiot, je sais qu'il y a des élections, je sais qu'il faut pas froisser les électeurs, mais je suis persuadé que nos citoyens sont capables d'entendre des raisonnements un peu nouveaux, rafraîchissants. Et bien sûr, je souhaite que ce soit dans la campagne présidentielle française, dans la campagne électorale en Allemagne, en Espagne, s'il y en a encore une, et partout ailleurs.
Frank Engel, tout à l'heure, Karim Adeli, parlait d'une Europe à deux vitesses. Et c'est aussi le souhait de la droite, ici, d'une certaine frange de la droite, pour l'élection présidentielle. Ça fait partie du programme de certains candidats. Qu'est-ce que vous en dites, l'Europe à deux vitesses?
Moi, j'ai dit de l'Europe à deux vitesses que c'est quelque chose qui a des mérites intellectuels sans en avoir beaucoup encore dans la réalité, parce que je vois mal s'articuler la première vitesse. C'est ça mon problème. La deuxième est facile à trouver. Ça pourrait être une espèce de quand même zone de libre-échange, le marché commun étendu à certains mécanismes de concertation politique qui pourraient convenir au Royaume-Uni. Si uni, il reste d'ailleurs dans la suite de l'opération. Ça pourrait convenir même à la Turquie, ça pourrait convenir à l'Ukraine. Mais je me demande où serait le cercle intérieur. Si c'est pour émasculer la Commission européenne, si c'est pour faire comme si il fallait encore plus d'intergouvernemental, l'ancien président Sarkozy, qui veut devenir le nouveau Sarkozy l'année prochaine, le propose aujourd'hui, alors c'est clairement non, et de tout le monde. Ils ne s'en rend peut-être pas compte, mais il est en train d'essayer de vendre aux Français quelque chose qui est déjà refusé par l'ensemble du continent et par les trois quarts de son propre parti. Donc à la fin du compte, si c'est pour des fantaisies comme celle-là, ou pour celle de Monsieur Wauquiez, qui, je me rappelle, a sorti un texte inqualifiable il y a quelque temps, où il proposait une refondation à quelques-uns, mais surtout sans le Luxembourg, parce que notre modèle commercial ne lui convenait pas. Ça, ce sont aussi des choses qui ne marcheront pas. Il y a potentiellement un cercle premier dans les réalités actuelles. ce sont les pays qui ont introduit l'euro. Moi, j'imaginerais mal, par contre, qu'un cercle premier se fasse sans la Pologne. Parce que sans disposer d'un grand en Europe centrale, cela manquerait de l'équilibre dont l'exercice pourrait avoir besoin pour avoir des chances de succès. Donc il faudrait convaincre d'une façon ou d'une autre la Pologne de bien vouloir introduire l'euro. La bonne chance que nous avons actuellement, c'est que l'arrivée au pouvoir du frère Kaczynski qui reste, avec son club de gnomes, a fait en sorte que les Polonais raisonnables qui sont au PPE sont aujourd'hui finalement en faveur de l'introduction de l'euro, ce qui n'était jamais avant. Donc, à la rigueur, on dispose d'une perspective à cet égard. Je suis bien évidemment d'avis qu'il faudra trouver assez bientôt, assez vite, un groupe de pays qui veut aller plus loin. Mais je me rappelle du temps d'Édouard Balladur, ça s'appelait une Europe en cercle concentrique, je crois. S'il y a trop de ces cercles, et c'était toujours mon appréhension par rapport aux coopérations renforcées qui sont permises par le traité, si tout cela se multiplie en asymétrie, ce qu'il faudrait, à mon avis, ce serait simplement, à un moment donné, une nouvelle convention, une véritable convention comme on en a eu une, à vocation constitutionnelle, qu'on voit déjà qui veut participer à ça et qui est déjà opposé à cet exercice par principe, et essayons de redessiner une perspective constitutionnelle pour la partie du continent qui partage déjà une monnaie, qui veut partager des frontières, un espace de liberté intérieure, une armée de main et peut-être encore quelques autres choses.
Ce sera le point final. Merci à tous. Carrefour de l'Europe avec le député européen Frank Engel du Parti Populaire Européen, Karim Adeli, eurodéputé écologiste, Jean-Dominique Giuliani de la Fondation Robert Schuman et Carole Ulmer de l'Institut Confrontation Europe. Un grand merci à tous. Merci à vous de nous écouter. Vous nous suivez sur Facebook et sur Twitter, bien évidemment. Carrefour de l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine.
Sept milliards de voisins.